الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue inshallah les cours qu'on avait déjà commencé tirés du livre Al-Fawaid, Fawaid al-Fawaid l'Al-Allama, le cheikh de l'Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahmatullah alayh rahmatan wasi'a. Le cheikh nous a expliqué la dernière fois certains termes qui étaient très importants à comprendre au niveau du din, des termes essentiels, des termes fondamentaux que l'on va retrouver beaucoup, c'est-à-dire qu'on va utiliser, que ce soit fil le kitab, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la sunna. Et parmi ces termes qu'il nous a expliqué donc tout au long du cours précédent qu'on a vu, il nous avait expliqué al-sabr, il nous avait expliqué également al-shukr. Il nous a expliqué également le Huda, il nous a également expliqué Dinul Haq, etc. Et les autres termes également qu'on a vus. Et on a bien compris quelle était la compréhension qu'on devait avoir et l'acceptation qu'ils avaient au niveau du Din, au niveau de la religion. Le Shir aujourd'hui, il va continuer à travers ce livre qui déborde et qui est rempli de Fawaid. C'est pour ça qu'il fut appelé ainsi. C'est-à-dire des choses, des points qui vont être bénéfiques pour notre religion, pour notre compréhension de la religion, pour notre dîn. Il dit le shir al-huda qarin ur-rahma. Le terme ici qarin, ça veut dire celui qui va accompagner. Si par exemple une personne t'accompagne tout le temps, wa sahibuk wa qarinuk. Donc c'est ton compagnon de tous les jours, tout le temps avec toi, à chaque fois qu'on te voit, ou cette personne avec toi. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Qarin. Al-Qarin. Il nous dit le Shir Al-Huda Qarin ur-Rahma. C'est-à-dire que Al-Huda, et comme on avait expliqué ce que ça voulait dire le dernier cours, ça va être le compagnon, ou ça va accompagner ce deuxième terme qui est Ar-Rahma. Ar-Rahma que tout le monde connaît, qui est la miséricorde, la clémence. Wa-Dalalu Qarin ur-Shaqa. C'est-à-dire que l'égarement, c'est également celui qui va accompagner tout le temps ce qu'on considère comme le malheur, Wallah al-Musta'an, la vie malheureuse. Et on va voir, et ici c'est ce qu'il va nous faire apparaître, Ibn al-Qayyim, qu'il y a bel et bien dans le Coran un rassemblement de ces deux termes dans plusieurs des versets, comme il va nous l'expliquer le Shir et comment il va les exposer, ces différents versets, on va retrouver donc les termes employés ici dans le même verset, que ce soit Al-Huda ou Al-Rahma. Et il nous dit le Shir, وَكَمَا يَقْرِنُ السُّبْحَانَ بَيْنَ الْهُدَى وَالتُّقَى. C'est-à-dire comment il va rassembler Allah Azza wa Jal, donc dans son livre, fil le Coran, entre ces deux termes, Al-Huda ou Al-Tuqa. Donc la guidance, même si on traduit la guidance, Al-Huda ici, ou Al-Tuqa, Tuqa que l'on traduit également par la piété, par la piété, par la crainte d'Allah Azza wa Jal. Les termes également qu'on avait expliqués auparavant, d'un point de vue religieux, qu'est-ce que voulaient dire ces termes. Également, Allah Azza wa Jal, il va rassembler al-dalal ou al-ghay, donc l'égarement, al-ghay qui est donc la fausse voie, une voie qui est fausse, et qui va être proche également donc ce qu'on appelle l'égarement. Fakadhalika, donc de même, comme il a rassemblé ces deux termes dans beaucoup de versets, Allah Azza wa Jal également, il va rassembler ces deux termes, et comme il a dit précédemment, Al-Huda wa al-Rahma, wa al-Dalal wa al-Shaqa, famin al-Awwal. Dans les versets qu'il va citer le Shir, on va retrouver les deux termes qui vont être rassemblés. Le premier, c'est Surat al-Baqarah, et qui est le verset 157. Surat al-Baqarah, يقول الله عز وجل, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Donc le premier terme ici employé et qui est bel et bien ar-rahma, war-rahma, war-rahmatun. Et le deuxième terme qu'on va retrouver, al-huda, qu'on va retrouver ici dans le terme al-muhtadun, humul muhtadun. Donc al-muhtadun, ceux qui sont bien guidés. Et donc on revient bel et bien à la base même du terme qui est al-huda, qui est la guidance. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Et c'est pour ça qu'à partir de ce verset, certains savants qui ont dit Oulaika alayhim salawatum min rabbihim, le terme as-salah, qu'on va apprendre à son premier sens. Vous savez que as-salah, et qui c'est le pluriel salawat, dans son premier sens c'est ad-du'a. Ad-du'a, c'est ce que veut dire le terme salah. À son premier sens. Taïb. C'est vrai qu'après il a pris au niveau de la religion un terme plus spécifique et qui a voulu dire par le terme as-salah ce que l'on connaît, c'est-à-dire la prière que l'on connaît, qui commence par le takbir, qui se finit par le taslim, et qui comprend donc des gestes et qui comprend des paroles qui sont spécifiques. C'est pour ça que certains savants nous avaient expliqué le terme, si on traduisait donc mot à mot as-salah ou salawat, donc les prières de notre Seigneur, qu'est-ce que veut dire les prières de notre Seigneur, qu'est-ce que veut dire ce terme lorsqu'on dit, ou lorsqu'on revoit salawat ou min rabbim. Certains avaient dit ar-rahma, certains avaient dit c'est en réalité ce que veut dire la miséricorde. Ce terme veut dire en réalité la miséricorde, salawat ou min rabbim, donc la miséricorde d'Allah ou les miséricordes d'Allah azawajal sur eux. Dans un premier temps on voit ici que c'est au pluriel, donc de dire les miséricordes c'est le premier shkal, et le deuxième c'est qu'en réalité on voit que ensuite il est cité wa rahma, donc ça serait un tikrar, c'est à dire qu'une répétition ici. C'est pour ça que beaucoup de savants ont réfuté l'interprétation qui est donnée lorsqu'on dit salatul rab, c'est à dire donc la prière d'Allah azawajal, le traduire ou sa signification par rahma, de par ce verset là. Et c'est pour ça que certains autres savants comme Cheikh Al-Uthaymeen et d'autres savants, ils ont pris donc l'explication de certains salafs comme Abu al-Aliya, qui reprennent donc l'explication du terme salawat thana'ullah fil mala, c'est à dire qu'Allah azawajal va faire l'éloge de la personne auprès des gens haut placés ou ceux qui sont haut placés, al-mala tayyib, al-mala al-a'la, les anges etc. tayyib. Donc c'est à partir de là qu'ils vont réfuter l'acceptation de ce terme salawatum min rabbihim wa rahma par ce verset là parce qu'on voit qu'il ne peut y avoir une répétition au niveau des deux termes, et ce qu'on a expliqué car il vient également au pluriel. Ala kulli hal, ce que l'a voulu faire apparaître Ibn al-Qayyim ici, c'est qu'on retrouve bel et bien dans ce verset les deux termes, l'un cité de par sa source même rahma, et l'autre qui va être cité en reprenant donc le terme al-muhtadun, et qui revient donc à l'origine au terme al-huda, donc ceux qui sont bien guidés. Également dans l'autre verset qu'il va nous citer, Ibn al-Qayyim, qui fait surat Ali Imran, qui est le verset 8, yaqul tabaraka wa ta'ala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Ba'da idh hadaytana. Donc on voit bien ici le verbe ici hadaytana qui est au passé et qui revient au terme al-huda. Au terme huda. C'est pour ça qu'on l'a traduit après que tu nous aies guidés. Et accorde-nous ta miséricorde. Donc on voit ensuite qu'Allah Azzawajal, ici, dans ce verset, il va être cité, Rahma. Et bien sûr ça, Allah Azzawajal, qala an al-mu'minin, par rapport donc aux croyants, ce qu'ils ont dit, Rabbana, car ils demandent, et ça c'est une invocation, ils demandent à leur Seigneur. Donc on voit les deux termes qui sont répétés. Ensuite, et le troisième verset qu'on va choisir, qu'on va prendre, même s'il y en a encore plusieurs, qui est par rapport aux gens du Kahf, de la caverne. يقول الله عز وجل ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Ça c'est fi surat Al-Kahf, c'est le verset 10. Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde. Donc le terme ici, miséricorde. Rahmatan. Et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Donc on voit ici, وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا الرَّشَدْ. Et qui est bien sûr Al-Huda, qui est bien sûr la bonne direction, la bonne voie, la droiture. Donc on voit ici qu'Allah Azzawajal, il a encore rassemblé entre ces deux termes. Et pourquoi il va avoir donc ce rassemblement des deux termes? Un peu plus loin, Ibn al-Qayyim va nous faire apparaître cette hikma, cette sagesse. C'est que tout simplement, avec la guidance, lorsque les croyants ils demandent la guidance elle empêche bien entendu l'égarement. Et on avait vu toute l'importance parmi les cours auparavant. Et on avait vu que cette guidance-là, elle était infinie, qu'elle n'avait pas de limite. À chaque fois que l'homme faisait acte pieux, vertueux, Allah Azzawajal lui faisait accéder, subhanahu wa ta'ala, à une nouvelle guidance. Donc c'était guidance sur guidance, comme on l'avait vu. Et ceci à l'infini, sans qu'il y ait une limite en réalité. Comme l'avait expliqué Ibn al-Qayyim. Donc, cette guidance-là, elle va empêcher al-dalal, elle va empêcher l'égarement. Et al-rahma, la miséricorde, elle va empêcher, elle, le malheur. Le malheur de l'homme. Ce malheur, Allah al-musta'an, al-shaqa. Elle va empêcher le malheur. Ça, c'est pour la miséricorde. C'est pour ça qu'on va retrouver dans beaucoup des versets. Que ce soit Allah Azzawajal qu'il rappelle de la parole des croyants, comme on l'a vu dans les versets, ou alors qu'il nous cite la situation de ceux qui ont suivi la bonne guidance, comme dans le verset fi surat al-Baqarah. Ensuite, après nous avoir fait prendre connaissance donc de ces deux termes, et comment ils étaient rassemblés dans le Coran, Ibn al-Qayyim il va revenir également à un terme et qui s'appelle Al-Fadl. Lorsqu'on dit Al-Fadl, où il va mettre en évidence la différence qu'il y a entre ces deux termes, Al-Fadl ou Al-Rahma. Quelle est la différence entre le terme Al-Fadl ou Al-Rahma? Lorsqu'on dit Al-Fadl min Allah, on traduit souvent par la grâce d'Allah. Al-Fadl min Allah. Tafaddal Allahu alayna. Allah Azzawajal donc nous a fait grâce par rapport aux autres pour certaines choses. Taïb, ça c'est le fadl. C'est comme ça qu'on comprend. Ninam. Warrahma, quelle va être donc la différence? Il va nous dire, Ibn al-Qayyim, que les expressions qui ont été citées par les salafs, par les prédécesseurs, pour ce qui est de l'explication de ces deux termes, al-fadl, warrahma, il va nous dire, Ibn al-Qayyim, wada min bab al-tahqiq, c'est-à-dire qu'il va faire apparaître la parole qui est la plus juste, la parole qui est la plus proche de la vérité, min al-haq. Yaqul wa sahih annahuma al-huda wa ni'ma. Fa fadluhu hudahu wa rahmatuhu ni'matuhu wa rahmatuhu ni'matuhu. Il va nous dire, min al-qayyim, que en réalité, al-fadl, c'est la guidance d'Allah Azzawajal, c'est sa guidance. Lorsqu'on dit fadlullah, c'est en vérité la guidance d'Allah Azzawajal. C'est ce qui est retenu ici par Ibn al-Qayyim. Par contre, rahmatuhu ni'matuhu, c'est son bienfait. Lorsque la personne bienfait lui est fait, alors il sait que les bienfaits lui octroyés, il sait que ça vient de la rahma, ça vient de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Et lorsque il est guidé et qu'il obtient une guidance, il sait que ça revient à son fadl. Ça revient donc à son fadl. Donc fadluhu hudahu, donc son fadl, c'est sa guidance. Wa rahmatuhu ni'matuhu, sa miséricorde, c'est son bienfait, subhana. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal également dans le Coran, tous ces termes lorsqu'ils sont réunis entre eux dans le Coran, ils ont tout simplement une signification. Le fait qu'Allah Azzawajal les réunit, les rassemble dans un verset du Coran, comme nous le met en évidence ici pour les autres termes, les termes précédents, pour ce nouveau terme et d'autres encore, on va s'apercevoir que rien n'est au hasard dans le Coran et que tout a été cité par Allah subhanahu wa ta'ala de sa pleine sagesse. Min hikmati al-baliga, une sagesse infinie, absolue, subhanahu wa ta'ala, et qui va ici apparaître donc dans son livre, le Coran, qui va apparaître donc dans sa parole, la parole même d'Allah Azzawajal. Il dit le shir, wa lidhalika yaqrinu bayna al-huda wa al-ni'ma كقوله في سورة الفاتحة. الله عز وجل également va rassembler donc les deux termes ici, le terme al-huda, donc qui revient à al-fadl, et al-ni'ma, et qui en réalité al-rahma, donc entre la guidance et le bienfait. Dans ce verset, un verset qu'on récite maintes fois dans la journée, dans nos prières obligatoires, dans nos prières surrogatoires, et qui est le verset suivant. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. Guide-nous donc sur le droit chemin. Donc ici اهدنا, qui vient bien entendu le verbe ici بالأمر, et qui revient donc au terme الهدى. صراط الذين انعمت عليهم, sur cette voie. Cette voie, quelle est cette voie là? Cette voie droite, c'est cette voie dont tu as comblé de bienfaits ceux qui y sont dessus. Et donc ici qui revient au terme ni'ma, qui revient au terme ni'ma. Donc on voit bien qu'Allah Azza wa Jalla dans ce verset, il a rassemblé entre al-huda wa ni'ma. Ensuite, l'autre verset qu'on va citer, il en cite encore plusieurs, Ibn al-Qayyim. Ça n'est pas restreint au simple verset qu'on a cité, il y en a encore beaucoup d'autres. Min bab, c'est-à-dire à titre de résumé, le deuxième verset ou les prochains versets que l'on cite, c'est fait surat al-duha. Alam yajiduka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ça c'est fi surat ad-duha, verset 6, c'est le verset 8. On voit également ici qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il rappelle l'état précédent de son prophète et qu'ensuite il l'a guidé sur le droit chemin et qu'il lui a donné de ses ni'mas, alors il l'a trouvé wa wajadaka dallan fahada. Ne t'a-t-il pas trouvé garé, alors il t'a guidé. Regardez ici donc la guidance. Wa wajadaka a'ilan fa'arna. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. L'enrichissement ici, bien entendu, fa'arna, qui revient à la ni'ma d'Allah Azzawajal. À cette ni'ma qu'Allah Azzawajal lui a donné, ce bienfait qu'il lui a donné, subhanahu wa ta'ala, et qui revient donc, et qui est sa rahma, qui est sa miséricorde. Alors que fa'hada, le fait qu'il l'a guidé, qui revient donc à son fadl, à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn al-Qayyim ensuite il va dire فَالْهُدَى وَالْفَضْلُ وَالْنِعْمَ وَالْرَحْمَ, ces quatre termes الْهُدَى الْفَضْلُ وَالْنِعْمَ وَالْرَحْمَ, ces quatre termes, il dit مُتَلَازِمَات لَا يَنْفَكُّ بَعْضُوَ عَنْ بَعْضُ. Il va nous dire que ces quatre termes en réalité ils sont inhérents. Ils ne peuvent se séparer, ils ne peuvent être séparés. Car la personne qui est bien guidée, c'est celle dont Allah Azza wa Jal lui a donné sa grâce, al-fadl. La personne dont Allah Azza wa Jal jouit de ses bienfaits, des bienfaits d'Allah Azza wa Jal qui lui a donné dans cette vie d'ici-bas, c'est celui donc qui a profité de cette rahma, dont cette rahma l'a touché, cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça que c'est des termes tous ensemble, et bien entendu celui qui est bien guidé, c'est celui qui est sur le bienfait, etc. Donc c'est inhérent, tous ces termes donc ne peuvent être séparés, c'est pour ça qu'on va les retrouver donc ensemble dans le Coran. Comme on va retrouver un ad-dalal wa shaqa mutalaziman, comme on va retrouver dans le Coran également que l'égarement et le malheur, la personne qui est dans l'égarement et donc dans le malheur, des termes également que l'on va retrouver tout le temps ensemble et inhérents, et qui ne peuvent être séparés l'un d'eux. C'est pour ça qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabi innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Et donc le terme su'ur, qui est le pluriel de sa'ir, il nous dit Ibn al-Qayyim wal 'adhabu alladhi wa ghayatu ash-shaqa. C'est en réalité le châtiment qui est la fin même du malheur, qui est en réalité le malheur en lui-même et qui est même l'extrême du malheur. Wallah al-musta'an. Al-'adhab, ce 'adhab. Donc les assassins sont dans l'égarement, et donc dans le châtiment, ou dans les châtiments, comme nous l'explique ici ce terme Ibn al-Qayyim. Et on voit que ce châtiment là c'est en réalité le malheur, c'est en réalité le malheur. Donc on voit bien que ces deux termes ils sont rassemblés ensemble. Également il dit Allah Azza wa Jal, il va parler des kuffar, il va parler des mécréants. Regardez comment subhanahu wa ta'ala dans ce verset, lorsqu'il va également ici rassembler entre ces deux termes, et qui est l'égarement et qui est le malheur, ash-shaqa, on va voir qu'Allah azawajal va nous donner l'état réel des mécréants, de ceux qui n'ont pas cru en Allah et en son prophète. Et ça c'est fi surat al-A'raf, et que le verset 179. Regardez ce qu'Allah azawajal dit à propos d'eux. Il dit subhanahu wa ta'ala, wa laqad dhara'na li jahannam kathiran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Regardez comment Allah azza wa jalla il a décrit al kuffar. Il va nous rappeler qu'ils sont dans l'égarement. Balhum adal. Donc on va retrouver ici dans le terme balhum adal, on va retrouver donc le terme qui revient à l'égarement. Ils sont encore plus égarés que les bestiaux. Wallah al-musta'an. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Regardez ici, on avait déjà parlé que la personne, elle va comprendre de par son cœur. Elle va comprendre de par son cœur. Et ça, c'est une des preuves du Coran. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Donc, le terme yafqah, bimarna yafham. C'est pour ça qu'on dit que al-fiqh fit din, on parle du terme al-fiqh. C'est tout simplement al-fiqh, la compréhension. Donc, al-fahm. Et lorsqu'on va retrouver ce terme sous forme de verbe, la yafqahoun, on va comprendre la yafhamoun. C'est pour ça que ça a été traduit, mais ne comprennent pas. L'homme qulubu la yafqahoun abiya. Allah Azza wa Jalla leur a donné des cœurs. Il a ensuite fait descendre ces signes. On avait vu que ces signes spécifiques, ces signes du Coran, l'ayat, etc., malgré tout ce qu'ils verront, ils ne croiront jamais, subhanallah. Pourquoi? Parce que des cœurs qui ne comprennent pas. وَلَهُمْ أَعْيُونُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Également, ils ont des yeux. Regardez, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas le chemin de la vérité. Ils ne voient pas le haqq. وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Et ils ont également des oreilles, mais ils n'entendent pas. Des oreilles pour entendre le Coran, les versets du Coran, pour entendre le rappel d'Allah Azza wa Jalla, pour entendre le rappel de La ilaha illallah. Et malgré ça, malgré ce rappel, c'est comme s'ils n'entendaient rien. C'est comme si ces paroles ne les touchaient pas, ne rentraient pas dans leurs oreilles et ensuite ne touchaient pas leur cœur. Et regardez ensuite Allah Azza wa Jalla, comment il va parler des kuffars, comment il va parler des mécréants, des non-musulmans. Ceux-là sont comme les bestiaux. Et n'am. Oulaika kal an'ami balhum adal. Ils sont quand même plus égarés que les bestiaux. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, contrairement aux bestiaux, il leur a donné des cœurs. Il leur a donné des cœurs pour qu'ils comprennent. Il leur a donné une intelligence pour qu'ils sachent faire la différence. Et malgré cela, aucun résultat. Malgré cela, aucun résultat. Donc ils sont encore pires que les animaux. Ils sont pires que les bestiaux qui, eux, n'ont pas eu cette aql. Qu'eux, ils n'ont pas eu cette aql, cette raison pour penser et pour ensuite faire la différence. A'yadam billah. Oulaika humul ghafiloun. Tels sont les insouciants. Naam. Ce sont des insouciants. Ça ici donc, on va voir que Al-Dalal, on va retrouver avec Al-Shaqa, car ils seront fi Jahannam, ils seront donc dans un malheur éternel, qui est le Jahannam. Et on retrouve également ensuite donc le terme Al-Dalal, fi Balhum Al-Dal, parce qu'ils ont été dans l'égarement. Donc des termes qui sont inhérents. Et ensuite, et parce que c'est des paroles choisies, des paroles que l'on a choisies de Ibn al-Qayyim, sans suivre bien entendu le fil du livre. À la kulli hal, le shir va parler sur plusieurs termes, sous plusieurs aspects, etc. Sans qu'en réalité le livre, il ait en lui-même un ordre bien précis. Il va tout simplement réunir toutes les fawa'id. Il va réunir tout ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ouvert, comme basira, subhana. Il va parler ensuite, Ibn al-Qayyim, d'un point qui est important. Vu qu'on a parlé de as-sa'ada, ou arfan lorsqu'on a parlé de ash-shaqawa qui est le malheur, on va voir quels sont ces signes et quel est donc à l'opposé Et l'opposé donc du terme shaqawa, ou shaqa, c'est sa'ada, c'est le bonheur. Donc le terme sa'ada peut être le contraire du terme shaqawa, qui est le malheur. Il va tout simplement nous donner les signes de celui qui est dans le bonheur et des signes de celui qui est dans le malheur. Ibn al-Qayyim. Et à travers cette parole-là ou ces paroles-là, on va pouvoir faire la balance et pouvoir se rendre compte de notre état. Et donc un rappel pour nous. Regardez ce qu'il va dire Ibn al-Qayyim. Il va dire min alamati as-sa'ada wal-falah, donc parmi les signes, ce qui va apparaître chez l'homme et qui va pouvoir nous indiquer que cette personne réellement, elle est fi sa'ada, elle est dans un bonheur et qu'elle est sur le bon chemin, donc qu'Allah Azza wa Jal lui a donné ce bon chemin ou l'a guidé sur son bon chemin. Il dit an al-'abda kullama zida fi 'ilmihi zida fi tawadhi'i wa rahmatihi. À chaque fois que le serviteur il va augmenter en science, il va avoir toujours plus de science en apprenant. Qu'est-ce qui va se passer si cette personne, vraiment celle qui va profiter donc de cette science et qui est ici min alamat sa'ada, pour vraiment savoir que cette science-là lui est profitable et que c'est un bonheur pour lui et qu'elle va en profiter d'ici, déjà dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, il va nous dire kullama zida fi 'ilmi zida fi tawadhu'i wa rahmati. À chaque fois que l'homme donc sa science va augmenter, alors sa modestie va augmenter et sa miséricorde, sa clémence envers les autres va augmenter également. Il va être, plus il va avoir de science, plus il va augmenter dans la science, plus il va être modeste, plus il va avoir de modestie. Ça c'est réellement l'athar, ça c'est vraiment le résultat et l'état qu'on attend après que l'homme accède de jour en jour à plus de science, que sa chance donc, son comportement et sa façon de faire, donc au niveau ici de la modestie. Ensuite il va nous dire Ibn al-Qayyim wa kullama zida fi amali zida fi khawfi wa hadari. Et plus l'homme également il va augmenter et ses actes vont augmenter, bien entendu ses actes d'obéissance, ses adorations, etc. Plus elle va augmenter et plus en vérité elle va augmenter à l'intérieur de l'homme et dans son cœur, el khawf, c'est-à-dire donc la peur. La peur que ses actes ne soient pas acceptés. La peur qu'il soit perdu. Wahadari. Et donc également, sa garde, il va prendre donc de plus en plus garde. Donc sa garde va s'accroître, enam. Il va être de plus en plus sur ses gardes, l'homme, chaque fois que ses actes augmentent. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il y a un adou, et on va voir parmi également turuq al-shaytan, parmi les voies du shaytan, parmi les voies du diable qui viennent ou par lesquelles le diable il vient attaquer l'abd, le serviteur. On sait qu'il y en a un qui rôde et qui va essayer de faire perdre à la personne tous ses biens qu'il a acquéris en tant qu'action, en tant qu'acte taïb. Donc la personne, plus elle va augmenter en acte et en réalité plus elle va avoir peur et plus elle va être sur ses gardes. Ensuite, il dit Ibn al-Qayyim, wa kullama zida fi umri naqasa min hirsihi. Il va nous dire Ibn al-Qayyim également que chaque fois que l'homme vieillit, plus ses années passent, plus l'homme vieillit, et en réalité, moins cet amour qu'il a, cet attachement qu'il a à cette dunya, hirsihi, donc c'est cet attachement, son avidité, cette vie d'ici-bas, va en réalité, elle, diminuer. Elle va diminuer au fur et à mesure qu'il va augmenter en âge, au fur et à mesure qu'il va vieillir. Ça, c'est également min alamat sa'ada. Ça fait également partie des signes du bonheur qui vont apparaître chez al-abd, chez le serviteur. Wa kullama zida fi malihi zida fi sakha'ihi wa badlihi. Également, à chaque fois que le serviteur, son bien va augmenter, ses biens matériels, son argent va fructifier, alors si on veut savoir si ça fait partie des gens min al-sa'ada, des gens du bonheur et bien entendu dans l'au-delà et déjà dans la vie d'ici-bas, alors sa générosité et la dépense dans le bien qu'il va faire vont augmenter. à chaque fois que son argent va augmenter, ses biens vont augmenter, ça va être en corrélation, ça va également augmenter. Ça fait partie également de l'alamat sa'ada. Également il dit wa kullama zida fi qadri wa jahi zida fi qurbihi min an-nas wa qada'i hawa'ijihim wa tawadu'i lahum. Également plus en réalité il va augmenter, bien entendu, son degré d'importance, c'est-à-dire ici sa notoriété et sa place dans la société, puis il va prendre de l'importance par rapport aux gens. Et en réalité, qu'est-ce qu'il va avoir pour effet sur cette personne-là qui fera partie min al-sa'ada? C'est que tout simplement il va se rapprocher encore plus des gens et il va les aider dans leurs demandes, il va les aider dans ce qu'ils ont besoin. Et il va également, comme on l'a vu pour ce qui était du ilm, il va également être plus modeste envers eux. Ça fait partie min alamat al-sa'ada. Donc il faut voir et s'apercevoir, est-ce qu'on fait partie ou est-ce qu'on rentre dans ces gens-là, min al-sa'ada? De par ces signes-là, est-ce que ces signes, ils sont apparents? Est-ce qu'on les aperçoit sur nous ou pas? Ça, c'est une véritable balance qu'on peut voir. Et maintenant, dans l'autre cas, pour ceux qui sont min al-shaqawa, les gens du malheur, regardez, il va reprendre donc tout ce qui va advenir comme bienfait, qui sont dans un premier temps un bienfait, si on prend maintenant la science, si on prend maintenant l'acte, etc. Qu'est-ce qu'il va dire, Ibn al-Qayyim? Yaqul وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيه المستعان. À chaque fois que la personne elle va augmenter dans la science, qu'elle va avoir toujours plus de science, qu'est-ce qui va advenir sur cette personne-là? Il va augmenter dans la prétention et dans l'orgueil, enam, et également dans la déroute. Wallah al-musta'an. Ça fait partie des signes des gens min ahli shaqawa. Contrairement à l'autre personne qui, lui, a augmenté dans la modestie. Kullama zida fi ilmihi aw fi amali zida fi fakhri wa ihtiqari lin-nas wa husni dhannihi bi nafsihi. Ensuite, à chaque fois que ses actes vont augmenter, qu'il va faire toujours plus d'actes, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est en réalité sa prétention et son orgueil qui vont augmenter. Et également la méprise qu'il a des gens. Il va donc mépriser de plus en plus les gens. Et il va en réalité penser qu'il est, sur le meilleur des chemins. C'est-à-dire qu'il va penser par rapport à lui tout le bien. Il va penser de lui-même tout le bien. Qu'il est fil khair, qu'il est dans le bien. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ça fait partie min ahli shaqawa. Ça fait partie min alamat ici. Ça fait partie des signes donc, des gens de ce groupe-là. وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عُمْرِ زِيدَ فِي حِرْسِ. Contrairement également, plus tu vas voir, plus ces gens ils vont vieillir et plus ils vont s'accrocher à cette dunya. Encore plus ils vont s'accrocher à cette dunya. Ils vont être encore plus avides de cette dunya-là. Chaque fois qu'ils vont vieillir, encore plus qu'avant. Ça fait partie également des signes du malheur. وَكُلَّمَا زِيدَ فِي مَالِ زِيدَ فِي بُخْلِ وَإِمْسَاكِ. Et à chaque fois également qu'Allah Azzawajal va l'augmenter en bien, lui, il va être de plus en plus avare. Et il va yumsik, c'est-à-dire donc il va retenir ses biens, il va les retenir, c'est-à-dire qu'il ne va pas les dépenser, contrairement à l'autre personne, elle bave. Il va donc, lui, les retenir. Ça fait partie également de mes alamat, shaqawa, donc l'avarice et le fait de retenir son argent. Wallah al-musta'an. Wa kullama zida fi qadri wa jahi zida fi kibri. Et également, à chaque fois qu'il va augmenter au niveau de sa notoriété, sa place dans la société, il va automatiquement augmenter en orgueil. Ces gens-là, si on voit ces signes apparaître chez eux, sache que ça fait partie, ou que ce des signes, min alamat al-shaqawa, ça fait partie des signes donc du malheur. Et donc la personne doit bien prendre garde à ne pas y tomber, et bien au contraire, se diriger et acquérir ce qu'on a cité dans un premier temps, alamat al-sa'ada. Ensuite, et Ibn al-Qayyim également, il va nous parler de ce point-là. Lorsqu'on a parlé du shaitan et lorsqu'on a parlé des différentes voies que le shaitan il emprunte pour pouvoir donc s'infiltrer dans le cœur du musulman, dans le cœur du croyant, et ensuite donc l'écarter de la voie du bien, l'écarter de cette voie des gens min ahli sa'ada, des gens du bonheur, il va nous dire Ibn al-Qayyim qu'en réalité le shaitan il a trois voies qui sont principales, des méthodes, et même s'il y en a d'autres, mais elles reviennent toujours à ces trois. Il va nous dire, Ibn al-Qayyim, dans la première, c'est At-Tazayyud wa al-Israf. Fayazidu ala qadr al-Haja, fatasiru fadlatan wa yahabu al-Shaytan wa madkhalu ila al-Qalb. Dans un premier temps, c'est tout simplement al-Israf, wa tazayyud. C'est donc le gaspillage, ce qu'on pourrait également appeler le surplus. C'est lorsque la personne elle va entrer dans ce qu'on appelle le gaspillage, et elle va rentrer dans le surplus, hein, tazayyud, c'est-à-dire le shir il nous dit, fayazidu ala qadr al-haja, c'est-à-dire qu'il augmenter ou il va prendre ce qu'il a plus que besoin, donc dépasser le niveau de ce dont il a simplement besoin et aller donc au niveau au-dessus. Il va nous dire à partir de là, ça va être une chose dont le shaitan va en profiter pour y rentrer, pour rentrer donc dans, par cette voie-là, il a le qalb, pas dans le cœur donc du musulman. Et naam, lorsque la personne commence à rentrer dans l'israf, donc dans le gaspillage, de dépenser au-dessus de ce qu'il a besoin, d'acheter au-dessus de ce qu'il a besoin, et qu'il acquiert que ce qui est de surplus, il rentre dans ce domaine-là, alors il va ouvrir une porte pour le shaitan. C'est à partir de là donc que le shaitan il va rentrer par cette voie-là, bien dans le matral, par cette issue, ou plutôt par cette entrée, matral ou il est le qalb. Ça c'est la première. Et il nous dit Ibn al-Qayyim, tariqul ihtiraz minhu, c'est-à-dire comment on va se préserver de cela, et comment on va donc obstruer la voie du diable pour pas qu'il rentre par cette entrée-là. Il va nous dire Ibn al-Qayyim qu'on ne doit donner au nafs, c'est-à-dire donc à l'âme, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a besoin. Yahtaw an-nafs tamam matlubiha, que ce soit par rapport à la nourriture, que ce soit par rapport au sommeil, que ce soit par rapport à la jouissance, ou que ce soit par rapport également au repos. Min ridain, ou nawmin, ou lidhatin, ou rahatin. Tout cela, la personne, pour qu'elle donc obstrue cette voie empruntée par le shaitan, et qui fait partie des voies principales que le shaitan il utilise pour entrer dans le cœur du croyant, du musulman, c'est tout simplement que la personne ne donne pas à son âme tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle demande, que ce soit par rapport à la nourriture, donc qu'elle fasse des efforts sur elle-même pour ce qui est de la nourriture, également pour ce qui est du sommeil, chaque fois qu'on veut dormir, pour pas qu'on rentre, bien entendu, fil cassel, c'est-à-dire donc dans la fainéantise, etc. Mais bien au contraire, être en réalité sur ses gardes, être sur ses gardes et donner au nafs moins que ce qu'elle demande. Il dit le shir, et si on a famata aghlaqta hadha al-bab, si tu as à ce moment-là fermé cette porte-là, donc, حصل الأمان من دخول العدو منه. Alors à ce moment-là, tu vas être sain et sauf que ton ennemi, il rentre de par cette porte-là. Taïb. Donc ça, c'est important par rapport au nafs. Ne pas donner tout ce que le nafs, il veut. Et donc savoir, justement, comment dire, se serrer sur beaucoup de choses et par rapport à ce qu'il a cité, Ibn al-Qayyim. Et à partir de là, on va donc obstruer la voie au shaitan. Et ça va être le croyant qui va être fort. Ça va être le croyant qui va être fort. Ça c'est pour ce qui est de la première voie. Ensuite la deuxième voie, elle rafla, c'est-à-dire donc la distraction, la négligence, l'omission, que la personne soit insouciante. Ça également c'est une des grandes voies du diable qu'il va emprunter pour entrer dans le cœur du musulman. C'est pour ça qu'il dit فَإِنَّ الذَّاكِرْ فِي حِسْنِ الذِّكْرِ, celui qui va se rappeler Allah Azzawajal. Taïb. Donc ici elle rafla, ça va être tout simplement une distraction du rappel d'Allah Azzawajal. Et le rappel, il se fait par beaucoup de choses. Et parmi les choses que l'homme, il accomplit et qu'il utilise pour se rappeler Allah Azzawajal, c'est tout simplement, bien entendu, al-dhikr, ce qu'on appelle al-dhikr, c'est-à-dire donc le rappel. Il dit tant que la personne, al-dhakir, donc celui qui se rappelle Allah Azzawajal, et ça de façon continuelle, de parler adhkar, fis sabah ou al-masa, que ce soit du matin, que ce soit du soir, que ce soit l'afkar al-mutlaqa, que ce soit donc les invocations qui sont dites absolues, générales, que l'on dit à tout moment, celles que l'on dit à des moments bien précis, celles que l'on dit à des endroits bien précis, etc. C'est-à-dire que la personne, elle doit s'accrocher à ce dhikr. Et lorsqu'elle s'accroche à ce dhikr, comme il nous dit Ibn al-Qayyim, alors à ce moment-là, c'est comme s'il avait construit autour de lui un rempart. Et un rempart très solide. Et bien entendu, lorsque l'adou, il veut rentrer, il veut s'infiltrer dans le cœur du musulman et qu'il trouve ce rempart qui est le dhikr, qui est en réalité le rappel d'Allah Azzawajal, alors il aura la voie obstruée. Il sera obligé de retourner. Donc regardez l'importance du dhikr et regardez son contraire qui est le rafla, qui est donc l'insouciance. Comment cela va être une occasion monumentale pour le shaitan pour qu'il rentre à l'intérieur du cœur du croyant et qu'ensuite il commence à faire son travail de destruction. Ayadan billah. Donc dhikr, le rappel, c'est une chose qui est fondamentale pour le musulman. Et comme on l'a cité, le dhikr à tout moment. Ensuite, thalitha, et ça c'est la troisième et la dernière, il nous dit Ibn al-Qayyim, takallufu ma la ya'ni min jami' al-ashya. C'est-à-dire tout simplement s'occuper de ce qui ne nous regarde pas ou se charger de choses qui n'est pas de notre domaine. Également, ça c'est une bab, ça c'est une porte que l'on va ouvrir. Et par là, on va tout simplement laisser entrer le shaitan, le djab, dans notre cœur. Lorsqu'on va commencer à s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, à regarder ce qui est autour de nous, regarder les gens, etc. Ou alors se charger de ce qui n'est pas de notre domaine, rentrer dans des choses qui ne sont pas de notre domaine. On va également laisser ouvrir une porte au shaitan. Et à partir de là, le shaitan, il va rentrer. Il va faire également ici son travail. Donc regardez ces trois voies qui sont essentielle, fondamentale, et par lequel le diable il va revenir pour pouvoir donc obstruer le musulman de la vraie voie et le détourner de la voie des gens du bonheur. Min ahli sa'ada, wallah al-musta'an, wa sallallahu azza wa jalla yasimana. Et lorsqu'on a parlé également de l'israf, et on a parlé également que le gaspillage ça faisait partie des voies par lesquelles le shaitan il rentre, et qu'on a parlé donc de ce qu'il allait en son contraire, c'est tout simplement donc savoir freiner et savoir donc ne pas donner ce que son âme demande. Également, il va avoir un niveau qui va être au-dessus, qui va être encore plus fort et dont la personne, c'est l'empreinte. Ceci, elle va encore plus se rapprocher d'Allah Azzawajal, elle va encore plus s'éloigner des attaques du diable. Et c'est ce qu'on appelle zuhd. Et c'est pour ça qu'on va voir que Ibn al-Qayyim, dans une autre partie, ou plutôt dans un autre chapitre de son livre, il va nous rappeler les catégories de ce qu'on appelle zuhd. Et zuhd, si on peut l'écrire, ce terme-là, qui vient donc du verbe zahida, yazhad, et qui est en réalité le contraire du désir. Biddur rahba, naam, c'est le contraire donc du désir. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim va nous dire un peu plus loin que zuhd, parce qu'il va faire la différence entre le zuhd ou le wara', il va nous dire. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ça c'est az-zuhd. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Az-zuhd, que l'on traduit na'am par l'ascétisme, que l'on peut traduire par ce terme-là, et qui en réalité le fait donc de renoncer. Parce qu'on revient au verbe zahida, yazhad, zuhdan, c'est le fait de renoncer, le fait d'abandonner, le fait de s'abstenir. C'est pour ça que certains le traduisent par l'ascétisme. À la kulli hal, pour bien comprendre ce terme az-zuhd, c'est le comprendre point de vue de la langue, comment on en dit, renoncer, abandonner, s'abstenir. Ça fait partie du zuhd. Et c'est donc, au niveau du din, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, c'est délaisser ce qui n'est pas utile dans l'au-delà. Ça, c'est zuhd. Et c'est vrai que c'est une étape qui n'est pas donnée à tout le monde. Et une étape dont le vrai croyant, et celui qui est fort dans son iman, peut atteindre. Et Ibn al-Qayyim, il va nous faire ici où il va nous informer, il va nous faire prendre connaissance que Azoud, elle a des aqsam, elle a des catégories. Et parmi les catégories qu'il va nous citer, celle-là, il va avoir des catégories. Donc c'est pour ça que lorsqu'on dit Zoud, on voit que c'est un terme qui est bien général, parce qu'on va voir que parmi ceux qui rentrent dans Azoud min aqsami, c'est-à-dire donc de ces catégories, il y a des choses qui sont obligatoires et qui sont fardu ayn, qui sont obligatoires pour chacun de nous et qui ne font pas partie en réalité d'une étape qui va être donc bien qui va être au-dessus, une étape dont seuls les véritables croyants, ceux qui sont forts dans leur foi, vont atteindre. Non, il y a des choses qui rentrent dans zuhd et qui sont obligatoires pour tout le monde, pour tout le monde, pour chaque musulman, pour chaque croyant, même pour celui qui est faible. Il nous dit le shir, az-zuhdu fil haram, c'est tout simplement s'abstenir et donc renoncer. Donc on voit bien donc le terme ici, zuhd, fil haram, de ce qui est interdit. Et il nous dit, Ibn al-Qayyim wa farbu ayn, c'est obligatoire pour tout le monde ceci. Ceci, c'est obligatoire pour tout le monde. Ensuite, la deuxième catégorie, zuhdun fi shubuhat, c'est également donc s'abstenir de toutes les ambiguïtés et de tout ce qui peut rentrer dans notre cœur et qui va nous apporter des ambiguïtés par rapport au din. Tayyib. Il va nous dire ici, Ibn al-Qayyim, pour donner en fait un tafsir, pour nous donner un détail, il va nous dire wa huwa bihasabi maratib ash-shubuha. C'est tout simplement ici, suivant les niveaux de l'ambiguïté. Tout ce qui est rentre dans la shubuhat, il y a des ambiguïtés que l'on peut connaître en réalité, pour faire par exemple un rad dessus, pour réfuter ce qui est dit, etc. Suivant bien entendu la science de la personne, suivant le niveau de din de la personne, suivant la foi de la personne, etc. Il va nous dire, Ibn al-Qayyim, que cela va revenir au niveau de cette même shubwa. C'est-à-dire qu'elle a des niveaux, cette shubwa. Il y en a d'autres, il y a certaines shubwa qui sont très fortes. Fa'in qawiyat il tahaqat bil wajib. Si c'est une shubwa qui est forte, et dont la personne, si elle l'entend, elle va lui rentrer dans le cœur, et ce sera plus que dur pour la faire sortir, alors à ce moment-là, ça devient wajib. C'est-à-dire à zoud, ça devient wajib ici, par rapport à shubwa. Par rapport donc à ce qui est de l'abandon. Il doit abandonner cela, ces choubouhats. Ça va devenir obligatoire de s'en écarter, donc une obligation. Et si on fait le contraire de l'obligation, on va tomber dans le haram. On va tomber dans ce qui est interdit. وَإِنْ دَعُفَتْ كَانَ مُسْتَحَبًا. Par contre, si elle est faible, c'est une choubouhat qui est faible, très faible, la personne peut la comprendre, et de par sa science, donc, la réfuter, etc. كَانَ مُسْتَحَبًا. Malgré cela, il est toujours mieux de s'en écarter. Il est toujours mieux de s'en écarter. Ensuite, Ibn al-Qayyim yaqul wa zuhdun fil fudul. Donc, ce qui est surplus, s'écarter de ce qui est surplus, abandonner ce qui est surplus, ce dont on n'a point besoin, qui fait partie donc du surplus. Ensuite, il nous dit Ibn al-Qayyim dans un autre qisme wa zuhdun fima la ya'ni min al-kalam wa an-nazar wa as-su'ali wa al-liqa wa ghayri. C'est-à-dire abandonner et délaisser tout ce qui nous ne regarde pas comme parole, comme regard, comme question, comme rencontre. Tout ce qui ne nous regarde pas, tout ce qui ne nous concerne pas, que ce soit donc dans des paroles qui ne nous concernent pas, dans le fait de regarder des choses qui ne nous concernent pas, dans le fait de demander par rapport à des choses qui ne nous concernent pas, par rapport donc à des rencontres ou faire des rencontres qui ne nous concernent pas, etc. Tout ça, également, ça rentre dans zuhd, min aqsam zuhd, le fait donc de l'abandonner, de s'en écarter. Également, il dit le shir, wa zuhdun fin nas, inam, s'écarte également des gens, inam. Plus la personne va s'écarter des gens, et lorsqu'on dit, bien entendu, s'écarter des gens, même si cela est relatif, par rapport à sa religion, c'est-à-dire que le fait qu'elle se mélange avec n'importe qui, le fait qu'elle se mélange avec beaucoup de gens, peut-être que cela va avoir un ta'fir, ça va avoir donc une influence sur la personne. Taïb, à la kulli hal, ça rentre également dans ce qu'on appelle le khulta, le fait de se mélanger aux gens, etc. Et il faudrait développer. Même si Ibn al-Qayyim ici le dit, il nous le rapporte simplement comme aqsam, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans les détails. Et on ne peut rentrer également dans les détails ici, car il faudrait expliquer beaucoup plus pour bien comprendre ce que veut dire zuhd par rapport au finnas, pour bien comprendre dawabit, les règles par rapport à ça. À la kulli hal. Ensuite, il dit wa zuhdun fin nafs bihaythu tahunu alayhi nafsuhu fillah. Également, le fait d'abandonner son âme dans beaucoup de choses, du fait que cette âme-là, son propre âme, devient un peu de choses devant Allah Azzawajal. Devant la religion d'Allah Azzawajal, devant l'adoration d'Allah Azzawajal, devant le djihad pour Allah Azzawajal, djihad de nafs, etc. Et également, il nous dit le shir, et c'est la dernière, wa zuhudun jami'un lidhalika kullihi, wa zuhudu fima siwallah, wa zuhudu fima siwallah. Et donc, la dernière catégorie, qui est en réalité cette catégorie qui va rassembler tout ce qu'il a cité auparavant comme autre catégorie, c'est tout simplement az-zuhd fi ma siwallah, c'est-à-dire s'écarter, abandonner tout ce qui est en dehors d'Allah Azzawajal. Wa fi kulli ma shaghalaka anhu, et tout ce qui va en fait t'occuper et qui va te distraire donc d'Allah Azzawajal, du rappel d'Allah, etc. Également, l'abandon de cela, ça va être jamia, ça va rassembler tout ce qui est auparavant. Inam. Comme par exemple, ce qu'on reprend donc nas pour mieux comprendre, le fait de connaître des gens, donc le fait de s'en écarter, des gens avec qui on ne profite pas par rapport à leur religion, il n'y a absolument rien, donc avec qui on n'apprend pas, avec qui on n'a pas de profit réel au niveau du djinn, al-zuhd, c'est-à-dire ici, il est préférable donc d'abandonner ces personnes-là et de s'en écarter. Ça fait partie, à titre d'exemple, de al-zuhd fil-nas. Et il nous dit, Ibn al-Qayyim, afdal al-zuhd, qu'est-ce qui est le meilleur dans cela? Il nous dit, wa afdal al-zuhd, ikhfa al-zuhd. C'est tout simplement ikhfa al-zuhd. C'est le fait de cacher, de dissimuler cela. Inam. Et en vérité, ça va revenir à notre ikhlas. Lorsqu'on abandonne ces choses-là, il faut les abandonner, mais il faut les dissimuler lorsqu'on les abandonne, par rapport, bien entendu, au regard des gens, par rapport aux autres. Ou essayer à tout prix que les gens ne sachent pas qu'on a abandonné ces choses-là. Donc, ikhfa zuhd, c'est tout simplement donc dissimuler notre zuhd, dissimuler ce qu'on a abandonné, que les gens en ont connaissance. Et ça en réalité ici, les tuqawwi, pour que tu renforces ton ikhlas envers Allah Azzawajal. Car tu l'as fait ici, tout ce zuhd, tu le fais pour Allah Azzawajal, pour te rapprocher de lui. Et ensuite il nous dit, wa as'abu az-zuhdu fil hudhuf. Tout simplement, ce qui est le plus dur comme zuhd, c'est lorsque la personne, bien entendu, Allah Azzawajal lui donne les bienfaits, lui donne l'argent par rapport à cette dunya. Bien entendu ici, le fait d'abandonner tout cela, se consacrer à Allah Azzawajal, et de délaisser tout ce qui n'est pas donc utile dans l'au-delà, ça fait partie d'un grand effort pour acquérir ce zuhd. Et ça va être le plus dur. Et ensuite, et pour finir, Ibn al-Qayyim également, il va nous donner, vu qu'on en est à beaucoup de termes dans ce cours, il va nous donner également la différence, ce qu'on appelle al-zuhd ou al-wara. Al-wara, également al-wara, si on peut l'écrire, ce terme, al-wara'u, un terme qu'on retrouve beaucoup dans le din. On dit par exemple, cette personne, elle a du wara'. Comme on dit, cette personne, elle a du zuhd, anid dunya. On dit également, cette personne, elle a du wara'. Ici, il va nous donner la différence entre ces deux, Ibn al-Qayyim. Il va nous dire donc, al-zuhd, comme on l'a dit, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Al-zuhd, c'est délaisser tout ce qui ne nous est pas utile dans l'au-delà. Par contre, al-wara', il nous dit, tarku ma yukhsha dararu fil akhirah. C'est délaisser ce dont on a peur qu'il nous fasse préjudice par rapport à l'au-delà. Donc on voit ici que c'est bel et bien également un tarq, c'est bel et bien un abandon. Al-wara', c'est bel et bien un abandon comme zuhd. Mais c'est plus un abandon ici dans ce qui ne nous est pas profitable pour l'au-delà, mais c'est un abandon de ce dont on a peur, de ce dont on craint préjudice par rapport à l'au-delà. Par rapport à l'au-delà. Et c'est pour ça qu'ensuite Ibn al-Qayyim il dit, wal qalbu al-mu'allaq bish-shahawat la yasihhu lahu zuhdun wala wara'. Le cœur qui va être raccroché aux shahawat, aux passions, aux désirs. Un cœur qui est raccroché aux passions, aux désirs, c'est un cœur dont le zuhd et dont le wara' ne sont pas valables. Ne sont pas valables et dont en fait lui-même n'atteindra jamais, il ne pourra atteindre. Et na'am. Donc c'est pour ça l'écart et s'écarter de ce qu'on appelle shahawat, ici au pluriel shahawat, des désirs et des passions. Il va nous rappeler, et c'est donc la dernière parole que l'on prend de Ibn al-Qayyim, un athar de Yahya ibn Mu'adh rahimahullah, qui disait, ajabtu min thalath, j'ai été étonné de trois, donc de trois personnes. Rajulin yura'i bi'amali makhluqan mithlahu wa yatruk an ya'malahu lillah. Il est étonné d'une première personne. Yahya, il est étonné d'une première personne qui va en vérité faire acte d'ostentation de par son acte pour une personne qui est comme lui. Une personne qui est comme lui et qui va donc délaisser cet acte-là pour Allah Azza wa Jal. Ensuite, wa rajulin yabkhul bimali wa rabbu yastaqridu minhu fala yaqridu minhu shay'an. Une personne qui va être avare, qui va donc avoir l'avarice, qui va être avare par rapport à son argent. Et Allah Azza wa Jal lui demande an yunfiq. Il lui demande à Allah Azza wa Jal qu'il bimarna ici yastaqridu. Allah Azza wa Jal lui demande à travers le Coran, à travers la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander au serviteur qu'il dépense fisabilillah, qu'il dépense dans le chemin d'Allah, qu'il dépense dans tout ce qui va rentrer dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et cette personne là ne répond pas à cet appel. Yabkhal, c'est à dire donc il va être avare, il va faire acte d'avarice par rapport donc à son bien, alors qu'Allah Azza wa Jal lui a demandé de dépenser. Et cette dépense là c'est comme un qard, c'est à dire que il le donne c'est comme s'il le mettait de côté et va le retrouver dans l'au-delà. Allah Azzawajal ensuite va lui donner 10 fois plus, 100 fois plus, 700 fois plus, jusqu'à l'infini, de ce qu'il lui a, sans même compter de ce qu'il lui a pris dans cette vie d'ici-bas, lorsque lui il a dépensé fi sabilillah. وَرَجُلٍ يَرْغَبُ فِي صُحْبَةِ الْمَخْلُقِينَ فِي صُحْبَةِ الْمَخْلُقِينَ وَمَوَدَّتِهِمْ وَاللَّهُ يَدْعُوهُ إِلَى صُحْبَةِ وَمَوَدَّتِهِمْ. Il y a un homme qui en réalité a le désir et l'envie ferme, profonde, d'accompagner les gens. فِي صُحْبَةِ الْمَخْلُقِينَ. Quelqu'un qui cherche toujours à avoir des compagnies, qui cherche toujours à être avec des gens nouveaux, etc. Toujours à chercher l'amour des gens, toujours à chercher à être avec des gens. Alors qu'Allah Azzawajal, lui, il l'appelle à être proche de lui, à l'accompagner, et il l'appelle à son amour, subhanahu wa ta'ala. Et ce athar, il est rapporté par Abi Nu'aym, fi Hilyatul Awliya. Voilà pour ce qui est d'aujourd'hui, et pour ce qui est donc de ce cours d'Ibn al-Qayyim al-Jawziya, rahmatullah alayh, à travers donc son livre Al-Fawaid, et tout ce qu'on a pu profiter donc de ces réels fawaid, qui sont plus que bénéfiques pour le croyant. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.